Bonjour à toutes et à tous. Christophe Jubien pour vous accueillir dans l'émission Écho de ma commune et de mon canton. Deux sujets aujourd'hui, deux destinations. Tout d'abord, Chartres en compagnie de Franck Masselu. Nous allons débattre du budget primitif de la ville de Chartres, budget de l'année 2020. Et puis en seconde partie d'émission, vous entendrez la voix de notre amie Linda. Linda qui était stagiaire il y a encore peu de temps sur Radio Rancière, qui a fait de nombreuses émissions, parmi lesquelles un entretien avec Bernard Monguillon, directeur de l'association Reconstruire Ensemble, association mainvilloise. Mais tout de suite, eh bien, rejoignons Franck Masselu.
Nous voici dans le bureau de Franck Masselu pour évoquer ce budget primitif 2020, 104,7 millions d'euros avec un budget de fonctionnement de pratiquement 62 millions d'euros, investissement 42,8. Tout d'abord peut-être deux mots Franck sur le contexte national qui pèse toujours évidemment sur la constitution d'un budget. On est obligé de tenir compte de ces paramètres.
Bien sûr, on tient compte des paramètres de la loi de finances hein, qui a été adoptée par le Parlement au mois de décembre. Alors effectivement, c'est des hypothèses de travail qui sont indispensables pour nous, sachant qu'effectivement, il y a un certain nombre de réformes en cours, et notamment celle de la taxe d'habitation, qui vient toucher de plein fouet les collectivités. On avait eu auparavant celle de la DGF hein, qui nous avait impacté considérablement. Je rappelle que rien que pour la ville de Chartres, c'est 4 millions d'euros annuels en moins sur nos recettes de fonctionnement. Voilà, ça, c'était l'impact de la dotation. Et puis maintenant, on va surveiller de très près la réforme de la taxe d'habitation et voilà comment ça va se passer, parce que on nous promet une compensation à l'euro près. Voilà, on verra le verdict à la fin. Et
personnellement, est-ce que vous y croyez ou pas?
Écoutez, pour l'instant, on va se. J'y crois au début, en tout cas, puisque là, il y a des annonces très claires et des simulations qui ont été faites. Mais vous savez, comme toutes les compensations, le souci, c'est est-ce qu'elles vont tenir dans le temps? Et ça, on peut se poser effectivement des questions.
Alors, budget de fonctionnement, les recettes sont en hausse depuis 2019, plus 5,7%. Rappelons à nos auditeurs d'où viennent ces recettes.
Une grande partie, effectivement, des recettes, hein, pratiquement la moitié de ces recettes, c'est effectivement les produits de la fiscalité. Hein, donc, les trois taxes encore que vous connaissez, le foncier bâti et la taxe d'habitation. Donc, 50% du budget, c'est pas neutre. Et puis, une autre partie des recettes sont celles émanant de l'agglomération à travers les attributions de compensation et la dotation de solidarité, quelque chose de facultatif, hein, voulu par le président de l'agglomération maire de Chartres, de reverser aux communes effectivement une partie des excédents, notamment issus du dynamisme hein, de la fiscalité des entreprises. Donc voilà, et là ça abonde aussi ces recettes de fonctionnement, et puis après on retrouve l'État avec la DGF, ce dont je viens de parler.
Alors, plus 1,7, est-ce que ça a une incidence, le fait de comme ça, d'améliorer un peu ces recettes d'investissement, ces recettes pour le budget de fonctionnement?
Oui, forcément, puisque vous savez que la différence entre ces recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement constitue un résultat excédentaire qui vient donc alimenter ce qu'on appelle notre autofinancement. Voilà, on met de l'argent de côté pour éviter d'emprunter la totalité des investissements qu'une collectivité réalise. C'est exactement comme le budget d'un particulier ou d'une entreprise, voilà, on essaye de faire des économies pour un jour les cumuler et s'offrir pour un particulier une voiture ou voilà qu'on finance ou qu'on en totalité ou pas, et cet argent qu'on met de côté sur le fonctionnement, eh bien, nous évite d'emprunter eh bien, la totalité de l'investissement qu'on va réaliser au titre d'une année.
Les dépenses de fonctionnement, ce qui coûte le plus cher à la mairie, c'est quoi au juste ?
Eh bien, on a à la fois les dépenses de personnel, forcément, mais comme là, dans toute collectivité, et même si on a plutôt tendance, nous, à Chartres, à plus que les maîtriser, et puis ce qu'on va appeler les charges à caractère général, et là, c'est tous les postes de charges hein, qui sont indispensables pour le fonctionnement de nos bâtiments, de nos services, voilà, et ça, c'est les deux postes les plus importants, et après, quelques charges financières en fonction de l'encours de dette, mais là c'est vraiment anecdotique, c'est moins de 5% du budget, donc vous voyez on en parle souvent beaucoup, mais au final ça ne représente que 5% effectivement de la section de fonctionnement.
Et la constante c'est toujours de réduire, vous l'avez dit, hein, le budget de fonctionnement, ou est-ce que vous reniez finalement ou...
Mais c'est quelque chose effectivement sur lequel depuis maintenant 3 mandats, et ça devient de plus en plus difficile, hein, bien, au fil du temps bien sûr, de trouver des pistes d'économie, sachant qu'aussi on subit quelques augmentations qui sont indépendantes de notre volonté, comme la hausse des énergies, du carburant, etc. Alors c'est ce que je répète aussi régulièrement, vous avez des investissements qui vous quand même permettent de faire ces économies. Quand on renouvelle une flotte de véhicules, on sait que les véhicules récents consomment moins, ou quand vous prenez des véhicules électriques par exemple, ce qui est notre cas, ou quand vous rénover des bâtiments ou qu'on vous en construisez des nouveaux, eh bien vous avez effectivement une consommation ou d'électricité ou de chauffage qui est beaucoup moins importante. Donc vous voyez, je parle souvent aussi de l'exemple de l'éclairage public. Quand vous transformez l'éclairage public et que vous le rénovez et que vous passez en LED, là il y a des fortes diminutions effectivement de la facture énergétique.
Parlons de l'investissement, donc 42,8 millions d'investissements qui vont se répartir en gros, comment ?
Alors on a sur l'ensemble de cette section d'investissement en dépenses effectivement la partie des travaux, hein, c'est ce que j'avais présenté lors des orientations budgétaires, où là on va réaliser sur l'année 2020 normalement 35,4 millions d'euros d'investissement. Se rajoute à ça effectivement dans ces dépenses, et bien le remboursement du capital, donc on arrive aux chiffres que vous indiquez, mais voilà, à noter encore une fois une politique ambitieuse d'investissement pour la ville. On parle de 150 millions d'euros sur chaque mandat pratiquement, voire même plus, donc vous voyez c'est des sommes conséquentes pour une ville comme la ville de Chartres, mais encore une fois des investissements indispensables au rayonnement de notre territoire, au rayonnement de la ville-centre de ce département.
Comparé à d'autres villes de même taille, c'est un fort investissement.
Oui, c'est un investissement. Alors quand on le mesure souvent en euros par habitant. Oui, effectivement, on démontre depuis plusieurs années que on investit beaucoup plus, entre 40 et 50% de plus que des villes de même strate. Donc c'est pas neutre.
Les recettes d'investissement, là aussi c'est important.
Alors les recettes d'investissement, oui, il faut aller en fonction des projets effectivement qu'on réalise en investissement, il faut aller chercher un certain nombre aussi de subventions qui nous aident aussi. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'autofinancement, et puis après entre guillemets, ce qui nous manque une fois qu'on a ôté ces subventions et cet autofinancement, eh bien on va chercher effectivement de l'emprunt auprès de nos partenaires financiers. Donc voilà, c'est schéma classique de financement d'une opération, mais comme ça l'est pour une entreprise, même si l'entreprise a beaucoup moins de subventions.
Alors les dépenses d'investissement donnent lieu à des réalisations, bien évidemment. Cette année là en 2020, est-ce qu'on va pouvoir entrer dans le pôle administratif?
Oui, on va entrer dans le pôle administratif, je dirais, vous avez raison, quand on dit enfin, un projet qui a pris plus de temps que prévu, hein, faut être très clair, parce qu'un bâtiment atypique, parce que 15 000 m² construit en plein centre-ville, parce qu'on a fait évoluer aussi ce projet, il y a des réglementations aussi qui viennent, par rapport aux dépôts de permis, et bien un petit peu aussi renchérir effectivement quelques coûts, mais bon, je pense qu'aujourd'hui on est à la fin de cette opération, les derniers crédits seront dépensés sur 2020, et pour une livraison du bâtiment, en tout cas pour la partie du bâtiment ouvert au public, comme j'ai indiqué hier, qui devrait se faire au mois d'avril prochain.
Rappelons l'objectif, hein, finalement, de ce pôle administratif, c'est de réaliser encore des économies sur le budget de fonctionnement, c'est un peu ça.
Oui, exactement. Alors, à la fois réaliser des économies, puisqu'auparavant, comme on l'a dit au tout début de ce projet, on avait 19 points d'accueil sur 11 sites. Voilà, donc c'était en termes de fonctionnement, vous imaginez, et même pour l'usager, et même pour les chartrains, très compliqué. Voilà, en fonction des démarches administratives que vous aviez à faire. Donc là, un guichet unique qui va rassembler, certes, les différents services de la ville, ceux de l'agglomération et l'ensemble des entreprises publiques hein, que nous avons créées, hein, celles qui traitent la partie énergie, de l'eau, du logement social, etc. etc. Donc voilà, donc une meilleure réponse aux questions des chartrains et des habitants de cette agglomération. Et je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas aussi pour nos agents, une meilleure productivité. Mmh. Parce que quand vous avez des agents répartis sur autant de sites, vous imaginez bien qu'il y a une perte de temps en ligne qui est considérable. Donc voilà, je pense que c'est ça aussi qu'on constatera très rapidement dans les mois qui suivent effectivement l'ouverture de ce pôle administratif.
Une meilleure cohésion des services.
Bien sûr. Et quand vous avez des gens qui sont dans les différents quartiers de la ville, voilà, on a quand même pas mal et même si la dématérialisation nous aide aujourd'hui à réduire les déplacements, on a quand même souvent à se déplacer, des paraffeurs, etc., des documents importants, bon, voilà, ou des réunions qu'on fait tous ensemble, et là, voilà, il y a des temps de déplacement qui sont conséquents, ben voilà, je pense qu'on aura, effectivement, on gagnera en productivité.
Donc d'autres chantiers, le pôle gare bien évidemment se poursuit, il y a le théâtre off également.
L'autre équipement majeur qui commencera donc en 2020, hein, l'emplacement de l'ancien cinéma à l'ABC, c'est la réalisation du off, donc trois salles supplémentaires hein, à la disposition des compagnies théâtrales, voilà, pour encore une fois une diversité et une meilleure offre culturelle sur le territoire.
La dernière question, les élections municipales, mais évidemment parce que c'est une date butoir en fait pour l'équipe en place. Ces élections vous font peur? Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que voilà?
Écoutez, voilà, nous on continue notre action jusqu'au bout, hein, puisque effectivement ces échéances, ce premier tour des élections, c'est le 15 mars. Donc déjà, d'une part, on continue à travailler. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'on a présenté hier soir ce budget de 2020 pour qu'il n'y ait pas de perte de temps hein, par rapport à l'exécution de ce budget. D'autres collectivités font le choix de les passer après les municipales. Bon, et puis bien sûr, la nouvelle équipe municipale hein, pourra abonder, corriger, modifier hein, s'il y a un changement de majorité. Un budget, c'est ce qui se fait dans toutes les communes. Après, voilà, donc vous avez su et l'ensemble des chartrains ont reçu dans leur boîte aux lettres mardi soir le courrier de Jean-Pierre Gorge hein, qui leur annonce effectivement sa candidature, la poursuite d'un projet hein, voilà, qu'on veut poursuivre. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur cette ville pour continuer à la transformer. Voilà, après, sur la partie financière, eh bien, les choses ne changent pas, maîtrise de la fiscalité, poursuite de l'investissement, tout en présentant effectivement ces ratios comme on l'avait présenté sur les orientations budgétaires. Donc poursuite d'une action collective au service des habitants et d'un territoire bien sûr.
Et dette maîtrisée, pardon.
Et dette bien sûr maîtrisée avec ces ratios de désendettement. Et encore une fois, ce qu'on disait hier soir, la meilleure réponse à cela, hein, c'est que nos partenaires financiers continuent bien sûr largement de nous suivre dans le développement de ces projets et nous prêter effectivement cet argent indispensable, cette matière première, comme on l'appelle souvent, indispensable à ces investissements publics opérés par la collectivité.
Merci Franck Pascal, merci.
le groupe Supergrass. All right. Je vous propose à présent de rejoindre notre amie Linda, qui fut, il y a peu de temps encore, stagiaire à Radio Grand Ciel, une jeune femme qui nous vient d'Algérie et qui a beaucoup de talent. Linda est allée à la rencontre de Bernard Montguillon, directeur de l'association Reconstruire Ensemble, association mainvilloise.
Donc aujourd'hui, on est avec Monsieur Bernard Montguillon, c'est le directeur de l'association Reconstruire Ensemble de Mainvilliers. Bonjour.
Bonjour.
Donc aujourd'hui, on aimerait bien savoir la complémentarité entre la régie de quartier et l'association Reconstruire Ensemble.
Alors en fait, l'association s'appelle Reconstruire Ensemble. Régie de quartier, c'est un label qui a été octroyé au niveau national parce que nous respectons en fait trois principes. C'est que nous travaillons au bénéfice des habitants, nous travaillons sur un quartier populaire et surtout nous associons dans notre conseil d'administration la ville, les habitants et le bailleur social important du territoire. Voilà.
Pourquoi l'association porte le nom de Reconstruire Ensemble ?
Alors, parce qu'en fait, l'origine du projet, c'est un projet de réhabilitation urbaine. C'est-à-dire que dans le cadre du quartier, le quartier Bretagne, en fait, qui est juste à côté de vous, en fait, a fait l'objet d'une réhabilitation il y a de ça maintenant une vingtaine d'années. Et dans ce cadre-là, la volonté de la mairie, c'était d'associer les habitants et du bailleur social également. Donc, c'est d'associer les habitants. Et donc, le projet régie de quartier semblait être l'outil adéquat. Et du coup, il y avait l'idée de travailler tous ensemble. Il y avait l'idée de reconstruire ensemble un quartier, d'où l'idée de reconstruire ensemble qui a surgi. C'est pas du bâti neuf, hein. Il s'agissait pas de construire quelque chose de nouveau, mais il s'agissait de reconstruire, en fait, des immeubles et surtout des relations entre les personnes.
Donc, c'est une association qui travaille depuis 19 ans, un travail de proximité au profit des habitants de quartier. Quelles sont les actions que vous faites, tout ce qui concerne l'insertion, la socio-professionnelle, l'emploi et tout ce qui concerne les actions que vous faites, voilà.
Alors en fait, il y a trois dimensions à reconstruire ensemble, c'est-à-dire qu'on fonctionne comme une entreprise, c'est-à-dire qu'on a cinq chantiers, cinq supports d'activité, donc on a un secteur bâtiment, un secteur hygiène et propreté, un secteur espace vert, un secteur polyvalent qui comprend donc des activités de déménagement social et gestion des ordures ménagères, et puis nous avons également un coiffeur solidaire. Donc ces trois en fait secteurs d'activité sont des supports d'insertion, ces trois chantiers sont des chantiers d'insertion reconnus par l'État, donc ça c'est plutôt la dimension justement insertion. C'est-à-dire que sur ces chantiers, nous embauchons en priorité, des bénéficiaires du RSA, des demandeurs d'emploi longue durée, des travailleurs handicapés, des jeunes sans qualification. Et l'objectif, c'est de préparer le retour à l'emploi. Et puis, il y a une troisième dimension de Reconstruire Ensemble, c'est qu'il y a un pôle citoyen, c'est-à-dire qu'on a également un pôle avec deux médiateurs et une responsable. Et l'objectif, c'est de tisser des liens avec les habitants, de les aider à monter des projets et surtout d'améliorer le cadre de vie, les liens sociaux et de créer des services de proximité pour eux, comme par exemple, alors il y a un jardin potager solidaire, nous avons un espace réemploi. Alors je vais pas te parler également du point numérique. Voilà, donc tout ce qui peut aider en fait au fait de se sentir mieux dans sa vie et dans le quartier.
C'est-à-dire l'association qu'on reconstruit ensemble, est-ce qu'il y a des spécificités pour adhérer à l'association, pour qu'il soit des demandes à l'association pour bénéficier de certaines actions? Est-ce que la priorité c'est pour les habitants de Mainvilliers ou il y a d'autres actions ciblées?
Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, enfin là, c'est qu'il y a deux niveaux. C'est que pour venir à Reconstruire Ensemble, on peut devenir donc salarié de l'association parce qu'on est dans une logique d'insertion. On veut mener un parcours d'insertion, c'est-à-dire on est demandeur d'emploi. Ce qu'on propose nous ici, c'est un contrat de travail. Donc ça, c'est important de saisir cela. Un contrat de travail plus un accompagnement socio-professionnel. Donc ça, c'est vraiment la particularité de notre association et on ne peut pas rester dans Reconstruire Ensemble. C'est maximum 24 mois. Donc, mais on reviendra peut-être sur ces dispositifs d'insertion. Donc ça c'est, vous êtes habitant du quartier, vous êtes demandeur d'emploi longue durée, par exemple vous pouvez rentrer à Reconstruire Ensemble par ce biais-là. Et puis nos services ne s'adressent pas uniquement qu'à nos salariés, ils s'adressent également à tous les habitants du quartier, voire au-delà même à l'agglomération, parce qu'on a des services par exemple comme l'espace réemploi qui sont pour tous les habitants de l'agglomération. Donc en fait voilà, on a en fonction de la nature du service, vous pouvez également venir à Reconstruire Ensemble si vous avez besoin pour une démarche numérique, si vous avez besoin par exemple, si vous avez envie de tisser du lien social, si vous avez envie de faire du compostage, on accompagne les habitants sur toutes ces activités-là.
L'accompagnement qui est fait par l'association Reconstruire Ensemble certainement a besoin de fonds. Comment cette association est financée ?
Alors en fait, il y a deux niveaux, c'est-à-dire que le budget c'est 2 millions d'euros, c'est 1 million d'euros donc de chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'en fait nous vendons, des prestations hein, de nettoyage, de rénovation de bâtiments, de coiffeurs, comme on en parlait tout à l'heure, et à côté de ça, on a un autre million d'euros, en fait ce sont des subventions. Alors ces subventions, en fait, elles servent à compenser l'improductivité de notre personnel, parce que bien évidemment, les personnes qui viennent sur nos secteurs, on ne leur demande pas d'avoir des compétences particulières, puisque nous justement, notre métier c'est de développer les compétences de ces agents-là. Donc l'objectif, c'est vraiment de les remettre dans le circuit du travail. Donc, pour cela, on a besoin d'avoir des accompagnateurs socioprofessionnels, des encadrants techniques, donc un encadrement supérieur à la moyenne, j'allais dire, et puis d'avoir un outillage moderne. Et donc, on a 1 million d'euros qui vient de différents niveaux, l'Europe, l'État, la région, la ville, la communauté d'agglomération, et également quelques fonds privés qui nous aident à financer le dispositif.
Certainement, l'association Reconstruire Ensemble a besoin d'un renouvellement, surtout que maintenant, on travaille beaucoup avec le numérique, les nouvelles technologies. Et est-ce que vous avez un programme pour les années à venir, 2020-2022? Vous avez un nouveau programme peut-être, programme d'information, de formation?
Alors en fait, nous, on a par exemple sur le quartier de Mainvilliers, il y a un projet de renouvellement urbain, c'est-à-dire qu'il va y avoir une partie du quartier qui va être progressivement donc détruite et puis reconstruite différemment. Donc ça veut dire qu'on va perdre une partie de notre activité. Donc il faut, et c'est une bonne nouvelle pour le quartier et pour les habitants, alors ça pose évidemment plein de questions, mais notamment par rapport à Reconstruire Ensemble, c'est-à-dire qu'on va perdre une partie de notre activité et une partie des supports d'insertion. Mais il ne faut pas se plaindre de ça, c'est comme ça, c'est la réalité, il faut faire avec. Par contre, il faut penser l'avenir en permanence, donc il faut qu'on adapte le dispositif. Il y a quelques années, il n'y avait pas de conteneurs enterrés. Maintenant, il y a des conteneurs enterrés. Ça veut dire qu'on a perdu une activité de gestion des ordures ménagères. On s'est adapté, on a développé un service de déménagement social. Et ben, de la même façon, on est en train de s'approcher des enjeux de demain et on se dit que les emplois de demain ne seront pas forcément ceux d'aujourd'hui. Et donc, on travaille en fait avec d'autres partenaires à la création d'une recyclerie, par exemple, à la création d'une filière dédiée à la collecte et la valorisation des biodéchets. Et donc, c'est-à-dire qu'on veut, on est en train de réfléchir à développer et reconstruire ensemble dans d'autres directions de façon à s'adapter au monde qui change et puis surtout à l'avenir de cette planète.
Et pour les gens qui veulent vous contacter, soit des bénévoles, soit parce que j'ai vu que vous avez des salariés, mais peut-être vous avez aussi des bénévoles qui travaillent.
Alors il y a 90 salariés à Reconstruire Ensemble, 20 personnes en CDI et 70 personnes avec des contrats d'insertion. Mais il y a également une dizaine d'administrateurs, c'est-à-dire que l'association, c'est une association de loi 1901, donc à but non lucratif. Il y a 10 bénévoles en fait qui administrent l'association, qui sont les responsables de l'association, qui ne sont pas payés pour le faire. Et puis on a également à côté d'eux une dizaine de bénévoles qui nous aident par exemple quand on organise des brocantes solidaires pour animer le jardin potager solidaire, etc. Donc si on a envie d'aider Reconstruire Ensemble, on peut devenir bénévole, ça c'est possible. On peut donc devenir salarié comme on l'a dit tout à l'heure, mais c'est cette complémentarité-là qui fait que le projet de Reconstruire Ensemble se développe, ce lien effectivement entre les bénévoles et les salariés.
Et pour les gens qui veulent vous contacter, qui veulent faire partie de cette association, qu'est-ce qu'il faut?
Alors, si vous avez envie de devenir salarié, vous devez passer par Pôle emploi, qui va donc valider si vous êtes éligible ou pas à notre dispositif d'insertion. Si vous avez envie d'être bénévole parce que vous avez du temps à consacrer pour nous aider justement dans notre développement d'activité, par exemple, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, tenir une brocante solidaire, par exemple, nous aider à faire du relooking de petits mobiliers, par exemple, nous aider dans le jardin potager solidaire, pour tout un tas d'actions et bien d'autres, je ne les cite pas toutes, il suffit simplement de nous contacter à Reconstruire Ensemble, donc au 02 37 36 35 30, de nous joindre, donc aux 2 avenues de Bretagne, à Mainvilliers, et puis on vous présentera Virginie Vincenot, qui est la responsable du pôle citoyen. C'est elle qui fait le lien, qui accueille tous les bénévoles, qui leur fait visiter en fait Reconstruire Ensemble, et qui leur propose de rejoindre l'équipe de bénévoles pour s'associer progressivement à ce que l'on fait. Et puis à force d'association, on peut aussi imaginer que les personnes, si elles s'impliquent de plus en plus, peuvent devenir administrateurs demain de l'association. Voilà.
Merci beaucoup Monsieur Bernard Manguio. Donc, on arrive à la fin de cette émission. Et un mot de fin peut-être par rapport à ce qui se passe dernièrement à Mainvilliers, parce qu'apparemment il y a le suspect peut-être, il s'est rendu lui-même par rapport au jeune qui a été tué, hein, le jeune Mainvillois qui a été tué cette semaine. Donc je ne sais pas si l'association aussi a un rôle d'information et de sensibilisation par rapport à tout ce qui se passe ces dernières années.
Alors oui, c'est tragique ce qui s'est passé dans ce quartier, et c'est évidemment terrible pour cette famille qui vit ce deuil. Écoutez, nous, en fait, la maman de ce jeune, en fait, a été salariée de Reconstruire Ensemble. Et en fait, après échange, notamment hier avec quelques salariés, notamment nos médiateurs, on s'est dit qu'il serait important qu'on rencontre l'ensemble de nos salariés pour parler de cette situation-là et pour mettre des mots. Mettre des mots, c'est déjà important pour qu'on ait des temps justement d'échange sur cela, parce que c'est un drame qui touche tout le monde. Tout le monde se dit, mais ça pourrait être pour mon enfant, donc ça c'est terrible. Et puis ensuite, on va probablement aller vers une cagnotte, c'est ça qu'on va probablement organiser aussi dans les jours qui viennent pour soutenir cette famille. Il y en a eu d'autres qui ont déjà été lancés, mais on va s'associer à ce mouvement-là. Et puis, on a la chance à Reconstruire Ensemble d'avoir deux médiateurs sociaux. Donc ces deux médiateurs, en fait, connaissent beaucoup les habitants. On ne fait pas, nous, de prévention particulière, puisque ces médiateurs ont plutôt un rôle de lien social, mais sans forcément travailler sur ces sujets-là. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'être à l'écoute, de faire passer des messages aussi de calme au niveau de la population, et puis, voilà, de travailler peut-être aussi également avec la ville voisine, puisqu'il y a des tensions entre ces deux villes. Il y a des médiateurs également de l'autre côté. L'idée, c'est peut-être de réfléchir avec les pouvoirs publics, pas tout seul, à voir comment nous pourrions être utile, puisque nous avons la chance d'avoir effectivement des médiateurs qui connaissent ces familles. Voilà.
Merci beaucoup. Donc, merci Monsieur Bernard Monguillot. Je rappelle les auditeurs que vous êtes le directeur de l'association de Mennevilliers Reconstruire Ensemble. Merci à tous les auditeurs qui nous écoutent. Merci, à bientôt. Au revoir.
Un grand merci à Linda pour ce reportage à Mennevilliers. Cette édition d'Écho de ma commune se termine. On a rendez-vous dans 4 semaines pour une nouvelle édition Chartraine. Je vous souhaite, quant à moi, de passer une excellente fin de journée à l'écoute des programmes de Radio Ronciel, votre radio préférée, la radio qui, je ne cesse de vous le rappeler, rapproche les hommes.
Moi je sais qu'un jour tu iras sur les kayaks de l'Alaska rejoindre les chercheurs d'or, Jack London du Mackenzie. Moi je sais qu'un jour tu iras sous les pavés de Manhattan chevaux de Geronimo remontaient la 5e avenue. Moi je sais un jour tu iras dans ce train qui mène à Pékin. Tu embrasseras cet homme jaune dans un couloir du Transsibérien. Moi je sais, un jour tu iras sur les pirogues de l'Afrique. Tu rencontreras un serpent recouvert de plumes magiques. Moi je sais, un jour tu iras avec ce type plus beau que moi. Il sera plus jeune et plus fou, fera danser les bougalous. Moi je sais, un jour tu iras sur les kayaks de l'Alaska rejoindre les chercheurs d'or, Jack London du Mackenzie.